Bonjour à tous, je suis Guillaume du blog Santé des enfants et environnement qui est là pour vous aider à entourer les enfants d'un environnement sain, non pollué et empreint de nature. Bienvenue dans ce nouveau podcast dans lequel je vais vous lire l'article « Pourquoi la nature apporte tant de bienfaits à la santé des enfants ?» l'hypothèse de la biophilie. Donc cet article commence par une citation de Nietzsche. Ce que nous appelons sentiment de nature est ce qui nous saisit à l'aspect du ciel, des prairies, des rochers, des forêts, des orages, des étoiles, des mers, des paysages, du printemps. Fin de citation. Edward Osborne Wilson est un biologiste américain célèbre. Il est notamment connu pour avoir été l'un des promoteurs de la notion de biodiversité. En 1984, Wilson écrit le livre Biophilia, biophilie en français, qui est un néologisme désignant littéralement l'amour du vivant. La biophilie est une hypothèse scientifique selon laquelle il existe une attraction, inconsciente et instinctive, des êtres humains vers les autres êtres vivants. Erich Fromm, le célèbre psychanalyste de l'école de Francfort, l'employait déjà pour désigner une orientation psychologique particulière. Wilson en a fait une caractéristique commune à tous les êtres vivants, qu'ils supposent profondément ancrés dans leur biologie. L'hypothèse de la biophilie suppose notamment qu'être en contact avec d'autres êtres vivants, animaux ou végétaux, contribue au fonctionnement harmonieux de notre corps. Bien que fondamentalement indémontrable, car ne pouvant faire en elle-même l'objet de tests scientifiques classiques, la biophilie permet néanmoins de proposer une explication à un grand nombre d'observations de types très divers. Par exemple, la propension à entourer une maison de verdure et de fleurs, les bienfaits pour la santé des bains de forêt, que nous avons évoqués à l'occasion d'un podcast précédent, les risques que peuvent prendre les personnes ordinaires pour sauver un animal en danger, etc. Concernant plus spécifiquement la santé des enfants, la littérature scientifique fournit plusieurs autres exemples. Avoir un animal de compagnie permet d'améliorer certains symptômes d'enfants autistes. Être entouré d'espaces verts permet d'augmenter la capacité de concentration des enfants atteints d'un trouble du déficit de l'attention avec hyperactivité. Jouer régulièrement dans la nature augmente les capacités d'apprentissage de jeunes enfants. Regarder des paysages naturels réduit le stress chez des enfants ayant vécu des événements hautement stressants. Habiter près de rues bordées d'arbres diminue la prévalence de l'asthme chez les enfants. Passer du temps à l'extérieur diminue la prévalence de la myopie chez les enfants. Avoir accès à des espaces verts augmente la capacité d'autodiscipline des enfants citadins, etc., etc. Le concept de biophilie est cohérent avec ce que j'ai appelé l'approche ancestrale dans un podcast précédent et dans laquelle s'inscrivent les analyses du blog. Nos ancêtres vivaient entourés de nature et d'êtres vivants, de la forêt tropicale des primates non humains à la savane arborée du genre Homo. Notre corps actuel s'est construit en étant profondément imbriqué au sein d'un écosystème vivant, en constante interaction avec les autres éléments de cet écosystème. Pour être épanoui, le corps pourrait avoir besoin de ces mêmes conditions extérieures, celles auxquelles il s'est adapté pendant des millions d'années, une immersion dans le monde vivant naturel. Le corps et l'esprit sont une même chose, vue sous deux angles différents, écrivait Spinoza. Si on retient cette seconde hypothèse, alors on peut conclure que physiologiquement et psychologiquement, nous sommes faits pour interagir avec le monde naturel. C'est pourquoi la biophilie est notamment étudiée dans le cadre de la psychologie évolutionniste, ou psychologie ancestrale, une branche de la médecine évolutionniste. Avant l'écriture de cet article, j'avais déjà entendu parler de l'idée de biophilie, ne serait-ce que parce que je suis un fan de Björk, et que je l'avais vu en concert à l'occasion de sa tournée Biophilia. Björk indiquait d'ailleurs dans une interview que son album, citation, est aussi un projet éducatif qui devrait faire comprendre facilement la musique à tous, et notamment aux enfants. Je me suis fondé sur les connexions entre la musique, la nature et la science. Fin de citation. Alors cette notion de biophilie, elle m'a beaucoup intéressé et donc ça m'a amené à lire le livre de Wilson, donc le livre Biophilia, le fameux biophilia. J'en ai fait une chronique pour un blog que j'aime bien qui s'appelle Papa à la maison. Je vais vous lire cette chronique. J'espère que ça va passer raisonnablement bien à l'oral, parce que mes chroniques ne sont pas des résumés de livres. J'extrais un certain nombre d'informations et de points de vue intéressants dans le livre qui concernent la thématique du blog, c'est-à-dire le lien entre santé des enfants et environnement. Puis je sélectionne certains extraits du livre, toujours en lien avec cette thématique, et puis à la fin, je donne mon avis. Mais voilà, dans le cadre de ces podcasts, ce sera un premier test donc avec le livre Biophilia, donc Biophilie en français. C'est un livre qui a été traduit en français assez tardivement. Le livre est publié en 1984 et la version française date de 2012. Donc Edward Osborne Wilson, c'est un entomologiste, c'est-à-dire un spécialiste des fourmis et un biologiste internationalement reconnu, je vous le disais, notamment pour être l'un des promoteurs de la notion de biophilie, mais également de biodiversité, qui est un concept plus connu. Donc Biophilia, c'est un livre qui définit ce qu'est la biophilie et qui décrit ses implications. Il est également l'occasion pour Wilson de développer son point de vue sur différents sujets, tous liés à la science et à la place de l'homme dans le monde vivant. Donc, tout d'abord, quelques informations et points de vue intéressants, en tout cas qui me paraissent intéressants pour la thématique santé des enfants et environnement. De manière innée, les êtres humains montrent un grand intérêt pour la vie et les processus biologiques. Cet intérêt devient parfois une véritable fascination. Wilson appelle ce phénomène biophilie. Construit à partir des racines grecques bios, la vie, et philia, l'amour, biophilie signifie amour de la vie. La biophilie est probablement un besoin ancré dans notre biologie, nécessaire à notre développement individuel. En particulier, nous sommes spontanément attirés par des paysages similaires à des paysages de savane, de grandes étendues d'herbe, parsemées d'arbres et d'arbustes, comprenant des eaux de surface. Ce type de paysage correspond à celui dans lequel nos ancêtres préhistoriques ont évolué, en Afrique de l'Est. Nos jardins modernes en reprennent les principales composantes. La complexité de la nature, qui ne sera jamais complètement comprise, constitue pour nous un profond mystère. Ce mystère génère un sentiment d'émerveillement. Cet émerveillement est probablement un besoin psychologique de base, nécessaire au bon développement des enfants. Paradoxalement, plus notre savoir sur la nature augmente, plus nous découvrons de nouvelles zones d'inconnu dans le même temps. Ainsi, notre sentiment d'émerveillement croît avec notre intérêt pour la nature. Plus nous en savons, plus le mystère devient profond. L'homme moderne lui-même, bien que l'objet de milliards de dollars de recherche par an, demeure un mystère apparemment insoluble. La complexité de la nature nous dépasse, la perte de biodiversité due à la destruction des habitats naturels ne pourra être corrigée en quelques générations. Cette correction demanderait des millions d'années. Les produits pharmaceutiques purement inventés sont très rares. La plupart proviennent de l'étude d'espèces sauvages. La baisse de la biodiversité est une grande perte, du point de vue de l'épanouissement psychologique, mais également du point de vue économique. Quelques extraits maintenant, en lien avec la thématique santé des enfants et environnement. Explorer la vie, s'affilier à elle, constitue un processus profond et complexe du développement mental. Dans une mesure encore sous-évaluée par la philosophie et la religion, notre existence repose sur cette inclination. Notre esprit en est issu. Un bit est l'information requise pour déterminer quel est l'élément choisi d'une alternative également plausible, tels les deux côtés d'une pièce lancée à pile ou face. Les mots anglais ont en moyenne 2 bits par lettre. Une seule bactérie possède quelque 10 millions de bits d'informations génétiques, un champignon 1 milliard et un insecte d'un à 10 milliards de bits selon l'espèce. Si l'information contenue par un seul insecte, disons une fourmi ou un scarabée, devait être traduite dans un code de mots anglais et imprimée en lettres de taille standard, le ruban en question mesurerait plus de 1600 km. Rappelons-nous ce fait élémentaire, que le développement de l'embryon ne dépend pas seulement de ses gènes, mais de la façon dont ces cellules se déploient dans l'environnement alentour. Ou que le comportement d'un organisme est modelé en partie par l'expérience, en d'autres termes par l'altération de ses cellules nerveuses en fonction des stimuli externes. La vie de l'animé, quel qu'en soit le type, est infiniment plus intéressante que n'importe quelle variété imaginable de matière inanimée. On apprécie cette dernière surtout dans la mesure où on peut la métaboliser en tissu vivant, ou si elle lui ressemble accidentellement, ou encore quand elle peut être façonnée en un artefact utile et convenablement animé. Nul, s'il est sain d'esprit, ne saurait considérer un tas de feuilles mortes de préférence à l'arbre qui les a perdues. Le cerveau a acquis sa forme actuelle au bout de 2 millions d'années d'évolution, depuis l'époque de l'Homo habilis jusqu'à la fin de l'âge de pierre, celui de l'Homo sapiens, où les hommes vivaient en bandes de chasseurs-cueilleurs, en contact étroit avec l'environnement naturel. Les individus aspirent souvent à conserver les qualités principales et parfois particulières de leur environnement d'enfance. Les reproductions artificielles sont incomparablement plus pauvres que la vie qu'elles sont censées imiter. Car si tout le processus de notre vie vise à préserver notre espèce et nos gènes personnels, la planification pour les générations futures est sans doute l'action la plus morale dont nous soyons capables. Il en résulte que la destruction du monde naturel, qui a vu la patiente construction du cerveau pendant des millions d'années, est une démarche risquée. Et le pire pari de tous est de laisser des espèces versées toutes entières dans l'extinction. Car même si l'on concède plus de place à l'environnement naturel par la suite, jamais il ne pourra se reconstituer dans sa diversité originelle. La première règle du bricolage, nous rappelle Aldo Leopold, est de garder toutes les pièces. Les produits naturels ont été qualifiés de géants endormis de l'industrie pharmaceutique. Une espèce de plante sur 10 renferme des composants anticancéreux. Telle est ma formule de réenchantement, de redynamisation de la poésie et du mythe, de mystérieux organismes et peu connus, vive à quelques pas de l'endroit où vous êtes assis. La splendeur vous attend en minuscules proportions. Voilà, c'est la fin de ces extraits. Mon avis, ce que j'ai bien aimé, je dirais, les passages qui décrivent, en s'appuyant sur l'exemple d'espèces particulières, l'harmonie et l'extraordinaire complexité du fonctionnement de la nature, je crois que Wilson a réussi à me transmettre son émerveillement. Les thèmes traités par différents angles d'approche, science, histoire, littérature, histoire des sciences, etc. Ça fait un très bel écho à ce que fait aujourd'hui Jean-Claude Ameisen. Un style véritablement poétique par endroits, qui n'empêche pas de nombreux traits d'humour bien sentis, et puis l'impression de lire une personne brillante, voire peut-être géniale, qui fait partie de ceux qui font la science. Ce que j'ai peut-être moins aimé, c'est que même si elle est peut-être vue comme une sorte de fil rouge, la biophilie elle-même représente une faible part des sujets traités. Donc je sors du livre enchanté, mais aussi un peu frustré. Voilà pour cette notion de biophilie. Scott Sampson, Dr. Scott, dans son beau livre « Comment élever un enfant sauvage », m'a fait découvrir un autre terme assez proche et que je ne connaissais pas du tout, qui s'appelle la topophilie. Littéralement, l'amour du lieu. Donc, de même que Wilson, Sampson utilise ce néologisme pour traduire une hypothèse de travail portant sur une déclinaison particulière de l'hypothèse de biophilie. La topophilie désigne l'attraction instinctive qu'un être humain ressent pour les paysages naturels dans lesquels il a grandi. D'ailleurs, si vous avez en tête encore les points de vue et les extraits du livre Biophilia, sans lui donner ce terme, Wilson évoquait déjà le principe. Donc la description des bases de cette hypothèse et ses implications pour nos enfants m'ont beaucoup intéressé, et je vous les présenterai à l'occasion d'un prochain podcast. Voilà, c'est la fin de cet article. Je partage avec vous un retour d'expérience en lien avec le sujet de ce podcast. En fait, j'imagine, comme beaucoup de parents qui écoutent ce podcast, on a souvent vu nos enfants intéressés par des éléments naturels, notamment des animaux, notamment les insectes. Moi, j'ai en particulier le souvenir d'un premier jour de vacances où on était arrivé chez des amis et dans les marches qui nous menaient à la maison, on a croisé un escargot qui, à son rythme, traversait l'escalier en transversale. Et donc, j'ai le souvenir de, malgré les bagages à apporter depuis la voiture jusqu'à la maison, eh bien, on s'est arrêté et on a regardé cet escargot traverser pendant, je pense, entre 5 et 10 minutes. Et je crois que ma fille n'avait d'yeux que pour lui. Et mon souvenir, c'était d'apprécier autant moi aussi cette observation de l'escargot que d'observer ma fille en train de s'émerveiller devant ce spectacle de la nature. Voilà, c'est la fin de ce podcast. S'il vous a plu, je vous invite à laisser une évaluation sur iTunes. Ça permettra de favoriser la dispersion de ces messages de santé. Si vous pensez que son contenu peut intéresser une de vos connaissances, je vous invite à faire suivre, à partager ce podcast par mail ou sur les réseaux sociaux. Voilà, merci à vous de l'avoir suivi. Merci à Ronan Vernon pour la musique. Merci à Yamois pour les dessins. Je vous dis à bientôt pour un nouveau podcast. Et puis d'ici là, prenez bien soin de vos enfants.